I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, c'est l'épisode numéro 21. On pourrait boire si c'était notre âge aux États-Unis, aucun rapport avec rien. Je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de What If épisode 1, 2 et 3. On va vous parler aussi de Suicide Squad, comme quoi on ne parle pas que de Marvel, voilà du DC dans Super Laser Punch. Et on va aussi vous parler de nos attentes pour Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Et je suis avec, évidemment, Johan. Après ce petit break de quelques semaines, comment est-ce que tu vas, Johan ?
Ça va super bien, la rentrée arrive. Ouais. J'envoie bientôt ma fille à l'école, donc forcément, ça va mieux.
Donc, t'es content.
Ça va me faire des vacances à moi.
Très, très bien. Donc effectivement, on est en forme. Donc on a, comme promis, on a fait une petite pause entre la fin de quelle était la dernière série dont on parlait ? Je m'en souviens même plus.
Il y a eu la fin de Loki et
c'est ça, et c'était Black Loki, Widow, c'était Loki et Black ouais. Widow. Non mais tu vois, je ne sais même plus quel jour il est, quel jour on est et comment je m'appelle. Mais donc on a eu quelques semaines de pause et on a regardé les premiers épisodes de What If. Je crois pas que ça vaille la peine d'en faire un épisode pour chaque épisode de What If pour Super Laser Punch, mais dans l'ensemble, on peut quand même dire ce qu'on pense des quelques derniers épisodes, et puis on reviendra pour l'actualité, comme d'habitude. Je mentionne aussi qu'on espère pouvoir faire un épisode sur Shang-Chi peu de temps après sa sortie. On verra si on pourra vous faire ça pour pouvoir geeker ensemble sur ce film-là. Mais commençons par What If, qui est une série animée, la première du Marvel Cinematic Universe, et qui reprend le principe, bon, j'imagine que vous le savez hein, si vous écoutez cette émission, mais au cas où, qui reprend le principe de la série de comics What If, où l'idée est qu'on étudie ou on observe ce qui se passe si un élément d'une histoire ou d'un personnage de Marvel est modifié. Et ça part sur, généralement, une série assez courte, voire même un seul comic qui développe cette histoire avec cet élément différent. Donc évidemment, ça se réfère beaucoup à l'histoire de base, sans que l'élément soit différent, et ça peut partir dans des trucs assez fous. Donc on va commencer peut-être avec le premier épisode, qui était Captain Carter. Qu'est-ce qui serait passé si le super sérum du super soldat n'avait pas été injecté dans Captain Rogers, mais plutôt dans Peggy Carter, et qu'elle était devenue le super soldat à la place de Captain America. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode, dis-moi ?
Alors déjà, moi, j'ai été assez bluffé par la qualité globale, en fait, de cet épisode-là, et puis en fait de la série hein, en général, sur la partie visuelle. Je trouve que c'est vraiment très très bien travaillé. Alors là, c'est un petit peu en 3D, enfin c'est de la 3D en fait, hein, avec une espèce de...
C'est de la 3D, cel-shaded, voilà, comiquisé.
Voilà. Mais du coup, ça marche très bien. Alors sauf pour les visages, je trouve que les visages, les émotions sur les visages et tout ça, ça passe pas très bien, mais en tout cas tout le reste c'est superbe. Et puis même en termes de réalisation, il y a énormément de lumière, etc. Donc ça c'est on va dire pour la partie on va dire technique visuelle.
Alors sinon, je crois qu'on peut dire d'une manière générale même. Moi je suis assez d'accord avec toi sur ce point, et ça le rend beaucoup plus accessible parce que c'est disons assez réaliste par rapport à ce qu'on pouvait imaginer pour de l'animation, même en 3D. Et là, ça correspond, disons que ça dépayse beaucoup moins que j'aurais pensé. Donc, ça rend le truc accessible aux personnes qui sont fans des films, mais pas forcément autant que ça de comics. Pour l'aspect visuel, c'est beaucoup plus approachable, C'est beaucoup plus accessible. Et puis, je dois dire qu'au niveau de l'animation, effectivement, les combats sont parfois presque meilleurs que dans les films. Et la chorégraphie et la synergie des choses est hyper, hyper convaincante. La badasserie des personnages dans cette série animée est vraiment au niveau. Donc ça, c'est une très bonne surprise pour moi aussi. Je ne m'y attendais pas. Un petit peu quand on a commencé à voir les trailers. Mais c'est vraiment réussi au final. Donc, je suis assez agréablement surpris de cet aspect-là.
Et du coup, pour revenir à l'épisode en lui-même, j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, ce principe-là de modification de choses et puis de voir ce qui en découle, sur le concept, ça me parle quand même déjà pas mal. Mais là, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est assez chouette. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent vraiment énormément quand même du MCU. Et du coup, on a tout, quand on a suivi le MCU depuis le début, enfin là, en l'occurrence, c'est surtout le film, le premier Captain America, ça joue vachement avec toutes les références qu'on a et ça te twiste un petit peu tout sous l'angle de là, c'est Peggy Carter qui est Captain America et les choses se déroulent différemment. Et du coup, je trouve que ça en fait un truc super agréable à regarder. Alors, c'est assez court, donc on verra d'un épisode à l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Mais là, sur celui-là, je trouve que c'est parfait. Ça revisite en fait. On n'a pas besoin de revoir entièrement Captain Carter version, avec ce twist-là. Mais là, du coup, en mode accéléré comme ça, c'est très chouette. Mais par contre, le souci, c'est que il vaut mieux quand même avoir vu ce premier film-là pour en tirer, on va dire, les bénéfices, parce que j'imagine que quelqu'un qui rentre là-dedans, ça doit pas forcément être évident ou tout à fait cohérent.
On entend ton téléphone qui vibre tout le temps. Je sais pas quelles sont les notifications, ouais. Mais il est sur le bureau.
Voilà, il a été envoyé sur le canapé, donc ça devrait plus arriver.
ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. C'est cool. C'est clairement, disons que ça va très très vite parce qu'ils reprennent une énorme partie de l'histoire du film. Ça s'applique à peu près tous les épisodes qu'on a vus. Ils reprennent une grosse partie de l'histoire du film, mais ça tient sur 30 minutes. Donc les scènes sont coupées très court, on passe d'une action à l'autre sans vraiment de transition ou le temps de respirer. Et du coup, c'est vrai que il faut absolument avoir vu le film pour comprendre ce qui se passe à la base. Et ça le rend un petit peu bizarre à regarder, je trouve, même si, c'est pas... ça fonctionne. Et effectivement, le fait qu'il joue avec tout ce qui est élément du film et de manière un petit peu ludique, quoi, c'est pas forcément ce qu'on attend de la manière dont ça va se développer. Et puis, ils font une sorte de petit hop, pas de côté, c'est rigolo, c'est sympa. Mais l'aspect très très court, ça m'a un petit peu gêné parce que ça va super vite. T'as l'impression que c'est une course et hop hop hop, ok, on raconte ça, ok, et puis c'est fini. Et puis tu te dis, et puis c'est des trucs quand même hyper ambitieux ce qui se passe avec Captain Carter, tu vois, c'est des trucs, des gros gros machins, quoi. Elle va dans une autre dimension, on spoil, hein, dans une autre dimension, puis elle revient, puis machin, je sais pas, et puis... Alors, heureusement qu'on a le background des films pour comprendre la charge émotionnelle des choses, mais j'ai trouvé que ça allait quand même un petit peu trop vite dans l'ensemble. Mais ça reste très agréable à regarder. Je dirais que, contrairement aux autres séries, c'est une série qui s'adresse aux vrais gros fans du MCU. Par exemple, moi, j'ai pas regardé cette série avec ma femme. J'ai pensé que ça lui plairait pas parce que c'est un petit peu trop fanboy, fangirl, et elle est pas à ce niveau-là, même si elle a vu tous les films et quasiment toutes les séries. Donc, voilà.
Ma femme adore. Hein. Elle adore la série. Et pareil, elle a vu tout le MCU, mais sans forcément être super fan. Donc pourquoi pas. Hein. Mais du coup, ce que je voulais ajouter sur cet épisode particulier, c'est que on sent bien la volonté de montrer cette histoire d'effet papillon. Hein, c'est-à-dire qu'on change une chose et on voit la cascade d'événements qui s'en trouve chamboulée. Et en l'occurrence, là, c'est intéressant parce qu'on est quand même peu de temps après le choix. C'est-à-dire que il y a une modification qui se passe et puis on voit juste après en fait ce qui se passe, même si ça se passe sur tout le long du film, hein. Du coup ils vont prendre après sur l'épisode d'après, c'est le parti inverse, c'est que le choix, enfin la modification est faite il y a longtemps et on se retrouve 20 ans après et du coup on voit à quel point tout va être complètement différent, quoi.
Bah justement, parlons-en de ce deuxième épisode. C'est donc, qu'est-ce qui serait passé si Star-Lord n'avait pas été Peter Quill, mais T'Challa du Wakanda, donc Black Panther, qui n'est du coup pas Black Panther, mais juste Star-Lord. Et là, je crois qu'on est encore plus dans le référence au film avec des trucs inattendus et marrants. J'ai bien aimé celui sur Captain Carter, mais je crois que celui sur Star-Lord m'a fait encore plus rire et était plus intelligent, il était plus malin, quoi. C'était vraiment même l'ouverture, parce que tout le monde se souvient de ce truc où Peter Quill dit « Je suis Star-Lord » et le type en face lui dit « Qui ?» Et là, tu l'attends, quoi. Donc, quand il lui dit oh, « Star-Lord, mon Dieu, c'est fou oh, je suis tellement fan !» Machin, ça fonctionne très, très bien.
Ouais, et puis, en plus, cette scène-là, elle sert surtout à montrer à quel point ce Star-Lord-là est adoré dans tout l'univers.
Ouais, et différent du fuck-up Peter Quill, quoi.
Celui qu'on a, nous, il n'est pas... Il n'est pas vraiment aimé comme ça, quoi. Et puis surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir, en fait, tous les bienfaits qu'aurait pu apporter T'Challa en tant que Star-Lord dans l'univers, notamment le fait d'avoir juste convaincu Thanos de ne pas mettre en œuvre son plan juste en discutant avec lui et en le convainquant. Et ça donne lieu à pas mal de scènes super drôles avec...
Ouais. Avec le fait qu'il l'ait convaincu... Le fait qu'il est convaincu, c'est
ok,
très
ouais, mais bon, ma solution à moi, elle est, bah, ça va quoi. elle est optimisée, c'est bon.
Ouais, j'avoue que c'est peut-être que celui-là, il faudrait que je le voie avec ma femme en fait. Celui-là, c'est un truc qui pourrait lui plaire, je crois. Ouais, en y repensant, ouais, d'accord.
Ouais, ouais. Et du coup, pour l'instant, tous les épisodes ont l'air séparés, et j'espère quand même qu'il y aura. Un semblant de convergence en fait, qu'il y a un fil rouge qu'on ignore, je sais pas, mais la fin, j'imagine bien que, j'espère en tout cas que ça se réunisse un petit peu. Alors je sais pas trop comment, on a vu que dans l'épisode d'avant que Carter qu'elle voyageait dans des dimensions d'une manière ou d'une autre, donc je sais pas. Donc,
moi j'y crois pas trop. Il y a l'artifice du Watcher qui regarde tous les univers sans intervenir, qui est un personnage bien connu dans Marvel, et qu'on a vu d'ailleurs dans le MCU avec un petit clin d'œil marrant à Stan Lee. Mais moi je crois pas trop. Ce qui risque d'arriver, parce qu'il y a quand même la petite référence à Peter Quill à la fin de cet épisode sur les Gardiens de la Galaxie. Moi, ce que je pense qu'il risque d'arriver, c'est peut-être, dans une saison 2, faire au moins quelques épisodes qui soient plus ou moins la suite de ceux de la saison 1. Mais d'ailleurs, à ce propos, c'est un petit peu... Je vais faire mon Social Justice Warrior une seconde, mais les deux premiers épisodes sont des épisodes qui mettent en avant des, entre guillemets, minorités, et on a des super-héros qui manquent, qui sont une femme et un noir. Et même si, évidemment, on a Black Panther, mais il est clair qu'il manque un petit peu, et on espère que c'est en train d'être corrigé. Mais c'est un peu frustrant, parce que moi, j'aimerais bien voir la suite des aventures de Captain Carter, par exemple. Et c'est un peu frustrant que ça soit genre, ouais, on les met en avant, c'est cool, c'est bien, mais en même temps, c'est genre, c'est uniquement dans la série animée qui compte pas trop et qu'il y aura pas de suite, que vous le faites enfin. Donc ça m'a un petit peu fait, un tout petit peu grincer des dents, mais... En même temps, j'avoue que c'est quand même sympa à regarder. Et je voulais le mentionner, mais j'aimerais bien, moi, voir la suite, quoi.
Ouais, complètement. Après, moi, mon espoir, c'est que la série marche bien, parce que moi, j'aime beaucoup quand même l'animation. Donc, j'espère que ça marchera assez bien pour que Marvel se dise pourquoi pas carrément faire une série d'animation donc avec une histoire complète quoi sur ces univers
ouais mais du coup on va avoir 10 épisodes apprécié.
Non mais ce que je veux dire c'est si on se dit que Captain Carter a été adoré par les fans faire une série Captain Carter Captain Britain
animé ouais
complète, de 10 épisodes en partant de là où on l'a laissé et,
pourquoi pas
j'espère que y a assez de souplesse côté Marvel pour réagir on va dire au succès des choses et parce que effectivement c'est et en fait carrément moi je vais même plus loin c'est que moi j'apprécierais vraiment d'avoir même un film
animé tu veux dire
de ce postulat, pas animé ou pas en fait, avec complètement un univers alternatif qui soit pas forcément impactant pour, on va dire, pour le MCU, mais qui soit un téléfilm Disney+, soit même un film au cinéma, qui se permette autant de folie, parce que c'est ça aussi en fait qui est réjouissant dans ces What If, c'est que on est décorrélé des conséquences du MCU, et du coup, en théorie, ces auteurs-là peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi, et aller au bout des choses, alors que même si j'aime bien le MCU, le fait d'être intégré comme ça dans une trame générale fait que les auteurs ne peuvent pas tout se permettre. Et bon, c'est une des contraintes, hein. Il y a des pour et des contre, c'est pas forcément tout négatif, mais voilà, ce qui est réjouissant dans cet exercice-là, c'est que tu te dis, les auteurs, là, ils peuvent s'éclater. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et j'aurais bien aimé, j'aimerais bien continuer à voir ce genre en fait de choses là, quoi.
C'est marrant qu'on arrive dans une situation où l'univers de super-héros complètement improbable qui s'étend sur plusieurs années et des dizaines de films, on en arrive à dire ah ouais, mais tu vois, il y a quand même trop de contraintes dans cette série là, ça serait bien qu'ils se lâchent un petit peu, parce que
il pourrait faire les deux, quoi.
Non, mais je comprends ce que tu dis, mais c'est marrant qu'effectivement on arrive à cette, c'est-à-dire que l'univers du MCU est devenu tellement important qui a ses propres sous-préoccupations, alors qu'il y a 15 ans, on se disait, mais s'il y a un film Iron Man, c'est la folie, c'est incroyable. Donc, bref, ça me fait rire. pardon, bon, on arrive à l'épisode 3 des What If. Et là, c'est un petit peu les Avengers en général. C'est le premier qui ne suit pas un seul film, mais tous les premiers films des Avengers, donc Iron Man 1, Thor 1, Hulk 1, tout petit peu de Captain America 1. Et du coup, et même Avengers le premier, et du coup, on a un genre un tout petit peu différent qui était sympa. Et moi, ce que j'ai apprécié dans cet épisode-là, c'est qu'on était beaucoup plus loin des films d'origine, même s'il y avait beaucoup de références, c'était vraiment une histoire qui était assez différente et que j'ai bien aimé aussi, même si en y repensant, je crois que celui sur les Gardiens de la Galaxie était mieux, mais je l'ai bien aimé aussi. T'en as pensé quoi, toi, Johan ?
J'ai bien aimé. Alors effectivement, c'est quand même un très léger pas de côté cette fois-ci, parce que finalement, si rien ne change dans cet épisode par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que même là, ça aurait été intéressant, parce que du coup, c'est comme si on suivait du coup Nick Fury et Coulson, et ça fait toujours plaisir de revoir Coulson, passer d'un héros à l'autre, c'est à faire la gestion des Avengers et du coup faire ce lien-là en fait, parce que en fait la chronologie entre ces films-là, on l'a plus ou moins en tête, mais c'est pas forcément intéressant d'y réfléchir à ce point-là, mais là du coup on a la vraie chronologie en fait des choses, puisque du coup on suit Nick Fury là-dedans, et donc du coup il y a ce switch-là qui fait que effectivement les Avengers sont tous tués les uns après les autres, et il y a cette enquête qui c'est qui fait ça, etc. Et ça, c'est assez sympa. On n'a pas souvent eu ça je crois pas qu'on en ait eu dans le MCU. Du coup, moi, c'est un genre que j'aime bien. Je trouve qu'il est quand même un peu en dessous en termes de réjouissance, je trouve, par rapport aux deux premiers. Mais du coup j'ai quand même trouvé ça génial, hein, de revoir un peu toutes ces scènes de tous ces films avec le héros qui se fait tuer.
Première d'ailleurs est vraiment drôle, hein. C'est vraiment comique avec Iron Man.
J'étais pas sûr de ce qui se passait, je me disais qu'il faisait semblant pour, pour les embêter. Non.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Il y a deux scènes qui m'ont beaucoup plu. C'est celle où Hulk explose. Et vraiment, parce que tu te demandes, mais comment, de quoi, qu'est-ce que... Et tu as l'explication qui, au final, elle est logique. Vous entendez les guillemets, logique. Et la scène où Black Widow se sort du fourgon, que j'ai trouvé hyper cool, et je parlais de chorégraphie et de fight et de badasserie, là c'était vraiment vraiment sympa, avec tous les petits coups et putain, j'avais envie de me lever et de faire ah ouais, moi je suis Black Widow, paf, coup de pied, coup de poing, machin, c'était très sympa. Donc
c'est le même personnage que dans l'ascenseur avec Captain America, je
un petit
crois,
peu, hein. C'est les gens du film, c'est Crossbone, c'est ça. Exactement. Donc bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Il est sympa, mais voilà. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut juste rapidement dire... j'allais dire, on peut parler de ce qu'on attend pour les épisodes suivants, mais même pas vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un que j'attends beaucoup, sans spoiler, c'est qu'ils font Marvel Zombies. Et
ah oui.
le Marvel Zombies, c'est une série qui est extraordinaire en comics, et qui est à la fois un petit peu ce qu'on pourrait attendre, et puis qui en même temps continue, parce qu'il y a genre, il y a eu genre deux ou trois séries différentes de Marvel Zombies qui se sont suivies, et c'est hyper inventif dans ce cadre hyper, justement cadré des histoires de zombies, et je vous recommande de... Enfin, on va voir ce que va donner la série, mais le comic, c'est vraiment excellent. Donc, je ne sais pas si vous voulez le lire avant de voir l'épisode, mais moi, j'en attends beaucoup parce que ça va être très compliqué de reproduire le génie de la série de comics.
C'est une série de comics qui m'a toujours un peu repoussé.
Tu l'as lu ou pas allait...
Non, pas du tout. En fait, quand j'ai découvert que ça existait, moi, j'ai un petit peu roulé des yeux à des zombies. Il y en a partout.
Bah, écoute, tu sais, alors déjà, ça a été écrit il y a très, très longtemps. C'était au début des années 2000 que ça a commencé, je crois. Donc, c'était avant la super grande mode des zombies. Bon, je défends un petit peu mon Marvel Zombie. Et je trouve que c'est une étude intéressante. Je vais pas spoiler, je vais pas en dire plus. Mais c'est à lire. On en parlera quand l'épisode sera passé.
Ça marche.
Et alors, et puis je suis assez surpris, enfin je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer d'autre, parce que dans la communication de base, on avait bien vu un petit peu Captain Carter et Star-Lord T'Challa, et donc à partir de maintenant, à part Marvel Zombie, il reste quand même, on va dire, si on compte Marvel Zombie, il en reste 6 de plus, et je sais pas du tout ce que ça va être, donc je suis très curieux d'avoir la surprise, et j'avoue, assez enthousiaste, donc on verra. Parlons donc maintenant de... on va faire un petit détour par DC et on parle du Suicide Squad de James Gunn, qu'on a vu tous les deux. Je vais peut-être te laisser ouvrir le bal parce que j'ai l'impression que toi, tu l'as plus aimé que moi. Donc, même si je ne l'ai pas détesté.
Je sais pas, hein, on va
voir ça.
Donc, c'était un film quand même assez attendu, hein, parce que bon, le premier Suicide Squad est réputé pour être quand même assez mauvais, même s'il a eu un Oscar, hein, je crois, côté costume. Mais en tout cas, il était assez attendu parce que James Gunn, voilà, il avait fait les Gardiens de la Galaxie qui sont quand même globalement très appréciés. Moi, j'avoue que j'étais pas vraiment dans l'attente. Bon, déjà parce que les Gardiens de la Galaxie sont pas forcément mes Marvel préférés. Et puis Suicide Squad, moi j'avais vraiment détesté. Mais voilà, au fur et à mesure que ça arrivait, j'avais quand même regardé quelques bandes annonces, puis il y a un casting assez incroyable et tout ça, donc je commençais à m'y intéresser. Et effectivement, je trouve que c'est un film assez audacieux finalement. Je trouvais assez osé, ne serait-ce que dans son introduction, donc je précise.
On va spoiler, hein, parce que oui, c'est...
Hein. Et voilà, du coup, on a une intro de film assez classique, hein, pour ce genre de film-là, avec voilà, un panel de super-héros, mais de super-méchants, avec voilà, des présentations express.
Ou juste de méchants, ils sont pas tellement super, hein, pour la plupart.
et puis voilà, ils vont arriver en mission et ils vont tous mourir de façon affreuse, directement, tout de suite. Et
C'est vraiment le moyen de dire le premier film, voilà ce qu'on en fait, quoi. Et on part sur d'autres bases complètement. C'est un message au spectateur qui est pas vraiment voilé. C'est genre le premier film, on lui dit au revoir. Et j'ai eu un petit peu de peine pour les acteurs, notamment de Captain Boomerang, le pauvre, tu vois, qui est revenu pour le deuxième film, mais juste pour se faire massacrer. C'était un petit peu dommage. Mais effectivement, cette intro...
Il y avait Nathan Fillion en The Detachable Kid.
C'était Nathan Fillion ?
Oui, moi j'ai voyé Nathan Fillion, je fais « Ah, trop bien !» et tout, et puis en fait, non.
D'accord. Tu sais que je ne l'ai même pas reconnu, je n'ai pas fait attention peut-être avec son masque, d'accord, oui.
Donc on a ce début quand même assez marquant, et puis après je trouve qu'il y a quand même une ambition visuelle globale qui est assez impressionnante. Moi, c'est vraiment le truc que je retiens, donc ne serait-ce que dans les intertitres, parce que du coup, en gros, le film est un peu chapitré et les chapitres sont écrits de manière organique dans la scène, hein, soit avec l'eau qui sèche, soit avec voilà, des choses en fait, du décor qui font les titres, etc. Et puis, voilà, moi, je retiens aussi cette fameuse scène d'évasion d'Harley Quinn avec les fleurs et les oiseaux, etc. Et
ouais, voilà, moi, ça, c'est... j'en parlerai après, vas-y.
Ouais, on pourra en parler de cette scène parce qu'elle se suffit quasiment à elle-même. Et voilà, et puis un méchant final, un monstre qui dénote complètement parce que du coup, on est quand même dans une ambition visuelle un peu réaliste. Et puis, on a ce méchant voilà, complètement caricatural, très comics pour le coup. Et qui rend super bien, je trouve, en fait, l'espèce de grosse étoile, Starro, le conquérant. et voilà, il y a une espèce de folie, en fait, là-dedans que j'ai appréciée. Après, pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus vraiment ma tasse de thé. Il y a un peu ce côté, le film est 18+, alors on fait du sang, du gore. Et des blagues, voilà, des blagues sous la ceinture. Et ça, moi, c'est tu vois, vraiment comme la série The Boys, typiquement, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui est assez repoussoir, en fait, pour moi. J'ai un peu besoin que ça soit justifié quand c'est aussi dégueulasse visuellement. Ouais. Et je trouve que c'est pas forcément justifié. Et du coup, moi, ça me gêne un petit peu quand je le regarde. C'est pas un drame, mais du coup voilà, moi j'ai un peu cette sensation, voilà, un peu edgy comme on dit, on veut faire un truc 18+, on est trop dark, et on est, tu vois, un peu ce côté là que moi je ressens, voilà. Donc ça, c'est mon avis global sur le film. Et toi, du coup, Patrick, tu disais que tu pensais que tu l'avais un peu moins aimé.
Ouais, disons que je ne l'ai pas détesté, hein, je l'ai trouvé sympa à regarder, mais je trouve qu'il part de tellement loin, parce qu'il doit rattraper tout The Suicide Squad, parce qu'évidemment, on ne l'a pas précisé, mais vous le savez, hein, c'est la suite de The Suicide Squad, et ça s'appelle Suicide Squad, c'est le 2, et du coup... Il doit rattraper tout ça et en même temps, il s'inscrit dans la même veine. C'est un petit peu Marvel essaye de faire Deadpool. Pardon, DC essaye de faire du Deadpool, on va dire. Et c'est pas que c'est raté, mais ça part de tellement loin que je trouve que le fait qu'il réussisse à faire un film, ouais, c'est sympa, c'est déjà extraordinaire, en fait. Mais le film n'en est pas vraiment bon pour autant. Je sais pas si je suis clair dans mon explication.
Ah oui. Mais je comprends bien. Ouais.
Et par exemple, le Starro, le conquérant, bah effectivement, ça marche plus ou moins. C'est-à-dire que c'est pas, tu t'arrêtes pas de regarder, mais ça reste quand même. Tu vois, ça part de tellement loin, c'est tellement débile. Je veux dire, autant Marvel, parce que bon, on peut pas s'empêcher de comparer. Marvel réussit à rendre crédible, attachant, fun. Acceptable des trucs complètement loufoques comme bah, l'arbre qui parle, le raton laveur, etc. Autant, bah, je sais pas s'ils auraient pu réussir à rendre une étoile de mer géante aussi crédible que les trucs fous qu'ils ont déjà rendu crédibles, tu vois, c'est trop. Et oui, ça passe, mais ça reste quand même, tu roules un petit peu des yeux effectivement avec Starro quand il sort et qu'il devient un kaiju, ça fait trop, tu vois. Et le génie de James Gunn réussit à le rendre potable, mais bon, ça reste potable.
Ouais, moi, c'est vraiment là, en fait. Alors, du coup, j'ai adoré l'intro. Suite à l'intro, je trouve que c'est passable. Je n'ai pas passé un très bon moment. Et par contre, dès Castaro, moi, c'est là où j'ai repris du plaisir parce que, du coup, effectivement, ça devenait fou. Et puis, il y a ces interactions. En fait, c'est qu'il y a une galerie de personnages quand même assez marquante, je trouve. Que ce soit le requin, la jeune Fiora qui passe son temps à dormir, le Polka Dot Man qui a un problème avec sa maman. Et du coup, je trouve que les interactions entre ces personnages-là et avec le méchant, donc typiquement Starro, le fait que celui qui voit tout pour Polka Dot Man, il voit sa mère partout et tout à coup il se met à voir sa mère dans Starro et il y a une scène avec l'actrice de la maman de Polka Dot Man qui détruit des bâtiments, et ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors effectivement, en termes de pur réalisme, Tu vois, je ne sais pas si ça passerait dans le MCU, parce que le MCU, il y a cette idée voilà, de globalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, moi, les films du DCU, là, je ne les considère vraiment plus du tout comme étant des continuités. Mmh. Et du coup, je prends ça quasiment comme un what if à part entière. Et du coup, ouais. Moi, ça marche, en fait, cette partie un peu folle. Du kaiju étoile de mer géante spatiale et du coup c'est moi c'est là où j'ai repris du plaisir alors que je trouve que ce qui se passait juste avant c'était un film d'action un peu plus classique quoi hormis certaines scènes ponctuelles marquantes
je suis assez d'accord on va dire je trouve qu'il y avait des scènes très très James Gunn, justement, qui fonctionnait, qui n'était pas complètement folle, mais qui fonctionnait, du genre, je ne sais pas, justement, quand ils vont... Je me souviens plus des scènes spécifiquement. Oui, quand ils vont sauver Harley... Ou la scène avec, mais c'est l'intro, la scène avec The Detachable Kids où il est en train de bouger comme ça, il tape, il donne des petites tapes sur les trucs. Tu vois, c'est l'absurde assez marrant où la rivalité entre Idris Elba et John Cena, dont je me souviens même plus des noms des personnages, qui est marrante.
Peacemaker et...
Ouais, Peacemaker
et Bloodsport.
Voilà. Bon, ça fonctionne, ça passe, mais... Mais c'est voilà, c'est juste rigolo, quoi, on va dire. C'est juste rigolo. À côté de ça, il y a quand même des éléments qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, comme, on l'évoquait, Margot Robbie, qui est, je trouve, comme toujours dans ses films, complètement éblouissante. Je trouve que c'est une star. Elle incarne le personnage de Harley Quinn d'une manière qui est... Enfin, c'est l'une des meilleures incarnations de super-héros ou de super-vilains de tous les films, y compris les films Marvel, tu vois. Et pourtant, il y a du lourd chez Marvel au niveau de l'incarnation. Toutes les scènes où elle est sont formidables, en fait. La scène où elle s'échappe est incroyable. La scène où elle s'est échappée et que, tu vois, il y a les autres qui étaient en train d'essayer d'escalader. Parce que ça aurait été facile de dire, tu vois, ils essayaient de venir la sauver. Et dans un retournement du trope de la princesse en détresse... Elle comprend qu'ils viennent la sauver. Elle dit mais c'est bon, j'ai pas besoin. Tu vois un petit peu genre, nous on fait pas de la princesse en détresse et forcer un petit peu trop en disant mais c'est bon, j'ai pas besoin que vous me sauviez. Vous voyez, moi je me suis défendue toute seule. Mais pas du tout. Ce qu'elle fait, c'est vous êtes venu me sauver. C'est tellement gentil. Tu vois, ça fait passer le truc. C'est formidable.
Pourquoi d'y retourner, ça, c'est... J'ai trouvé ça très
ouais, drôle. C'est ça, mais j'y retourne, vous savez. C'est extraordinaire. Et la scène, effectivement, moi, j'aurais voulu qu'il fasse Birds of Prey, d'ailleurs, même si on n'en a pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé très réussi Birds of Prey, notamment parce que il y a Margot Robbie, et cette scène où elle s'échappe, elle est mais incroyable. Et là, c'est trop court, en fait. Peut-être que si ça avait été plus long, ça aurait été trop long. Mais là, la manière dont Harley Quinn, qui est complètement déjantée, voit le monde et ce qu'elle fait, c'est... Enfin, j'ai trouvé ça un génie de réalisation qui était vraiment plus que plaisant. Ça me donne envie de revoir le film juste pour ça, en fait. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé Birds of Prey aussi. Pourtant, Margot Robbie, moi, c'est une actrice qui a eu du mal à me convaincre. C'était peut-être la faute au premier film, du coup, au premier Suicide Squad. Mais du coup, moi, j'avais un peu l'avis de bon, il faut vraiment virer tout le monde et puis refaire un nouveau DCU propre, quoi. Mais en fait, non, effectivement, avec Birds of Prey, puis là, j'adore ce personnage aussi. Et voilà, on a presque envie qu'elle ait un peu plus de temps d'écran sur ce film-là. Donc ouais, complètement, c'est la très grosse réussite et j'espère qu'on continuera à avoir ce personnage dans d'autres films.
J'espère aussi, ouais. J'espère aussi. Et bon, bah, on verra. Là, j'imagine qu'il a... Je sais pas s'il a bien marché, mais je me dis peut-être qu'ils auront un autre film Suicide Squad au moins. Mais elle, ça a l'air de... S'ils vont en garder une, c'est au moins elle qu'ils vont garder, quoi, je pense. Et bon. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour Birds of Prey, pour Suicide Squad. Et du coup, on va conclure avec nos attentes pour Shang-Chi qui sort bah, dans quelques jours en France et un petit peu plus tard en Finlande. Est-ce que tu peux nous parler ? On en avait un tout petit peu parlé quand on avait fait notre... notre résumé de tout ce qui va se passer dans le MCU d'ici la fin de l'année. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu attends ? Tu as vu le premier trailer, mais peut-être pas plus, je sais plus.
C'est ça. J'ai vu le tout premier trailer. Alors, du coup, je suis abonné à la chaîne YouTube de Marvel et j'ai jamais vu ça. Ils postent une nouvelle bande-annonce ou un nouvel extrait, parce qu'ils mettent aussi carrément des vrais extraits du film, tu sais, ininterrompu. Ils en postent tous les jours. Tous les jours, il y a un nouvel extrait, machin. Je sais, alors, je ne la regarde pas, mais je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà tout le film sur YouTube, quoi ? Ouais. Donc, bref. Alors, moi, j'en attends beaucoup, peut-être un peu trop. Je l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien retourner un peu au terre-à-terre et le fait d'avoir un personnage qui a a priori pas de super pouvoir et qui va montrer de la belle bagarre, bah, ça me plaît bien. Dans mes espoirs, j'espère que ça sera ça, un film avec des très belles chorégraphies de combat inspiré des films de Hong Kong et puis et si possible un minimum de pouvoir cosmique et de trucs un peu fantastiques. J'espère vraiment que ça sera...
Bah, c'est un petit peu antithétique, du coup, parce que pouvoir cosmique et...
Non, justement, j'espère qu'il y aura un minimum.
Un minimum. Ah oui, d'accord, tu veux dire qu'il y en aura le moins possible.
Ouais, le moins possible, ouais.
D'accord, ok. Ouais, j'ai l'impression, moi j'avais vu, je crois, la première bande-annonce aussi, sans les avoir vues, en voyant, parce que tu as toujours sur YouTube ou ailleurs des petits thumbnails, des illustrations, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de pouvoir magique, peut-être pas cosmique, mais un peu magique, mais bon, ça on verra. Pour ma part, moi, ce que j'attends, c'est, bah, comme je disais, pas grand-chose. Ce que je voudrais, du coup, pour un film de kung-fu, c'est des bonnes chorégraphies de combat impressionnantes, dynamiques. J'étais un grand fan de films d'arts martiaux dans ma jeunesse. Et j'avoue que ce qui me manque dans certains films, il y a des super chorégraphies. Dans d'autres, c'est quand même un petit peu plus décevant. Là, il faut qu'ils réussissent ça. Et puis, si on va chercher un petit peu plus loin, on a l'impression que... Enfin, le film s'appelle quand même Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc, il va y avoir une partie importante à l'organisation des Ten Rings. Et du coup, je me dis, il faut qu'il réussisse à trouver l'équilibre entre eux. Ça parle de plein de trucs qui s'est passé dans d'autres films, mais les Ten Rings, ce n'est pas la première fois qu'on les voit. Et d'ailleurs, dans Iron Man 1 et 3, ils jouaient un rôle important. J'aimerais bien qu'ils approfondissent, qu'ils explorent, qu'ils développent cette organisation-là, peut-être en faisant des références à ce qui s'est passé dans les films précédents, mais ça va être compliqué à mon avis, parce que moi, ce que je veux pas, c'est qu'ils fassent un truc super sérieux. Enfin, si, il faut que ça soit sérieux, mais il faut pas qu'ils se prennent trop au sérieux dans la présentation de cette organisation. Je veux pas que ça soit juste une organisation de grands méchants qui sont vraiment trop trop méchants et qui manipulent le monde depuis des générations, tu vois. Je veux que ça soit un truc qui soit un petit peu plus en phase avec le MCU, où il y a quand même parfois j'aimerais que les Ten Rings, ça soit pas un truc de comics. Et j'ai peur que ça soit un truc un peu de comique où c'est vraiment les grands méchants, un petit peu comme The Hand dans les séries Netflix, qui était vraiment juste l'organisation des gros méchants un peu bêtes. Donc ça, c'est ce que j'attends, une nouvelle organisation de méchants qui tienne la route dans le cadre du MCU. Donc c'est l'autre truc que j'aimerais voir, on va dire.
J'aimerais bien effectivement que ça raccroche un tout petit peu, un minimum, les wagons avec... avec ce qu'on sait d'Iron Man 1 et tout ça, enfin, j'espère qu'il y aura quand même des références suffisamment pour qu'on remette ça dans un contexte et qu'on comprenne ce que faisait cette organisation tout ce temps aussi, parce que bah, du coup c'est ce qui se passe quand on introduit des nouvelles des nouvelles figures ou des nouvelles organisations, on se demande toujours, ok, mais vous faisiez quoi, tu vois, voilà, ouais. Pendant le blip, pendant le, enfin, un petit peu envie.
Et même pendant les plus. Pendant les Iron Man. Et j'espère que ça sera pas juste ah, mais nous sommes méchants et secrets, donc vous ne nous avez pas vus, mais nous étions dans l'ombre et nous manipulions tout. Et du coup, c'est
dans Iron Man 1, le Ten Rings, ils se font manipuler par j'oublie son nom là, par le méchant de
Aldrich, film, machin. Non, alors ça, c'est dans le 3. Dans le 1, ils se font... Enfin, dans le 1, ils font partie... Ah oui, d'accord. Oui, le grand méchant dans les caves afghanes, quoi.
Ils se font doubler par le vrai méchant du film, c'est ça, hein, parce que du coup, ils...
Ouais, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est censé être les Ten Rings, les terroristes de... Bon, en gros, c'est comme je disais, c'est des caves afghanes. Hein. Je ne sais pas s'il est officiellement en Afghanistan, mais clairement, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est genre, il a mis le sticker, tu vois, l'autocollant des Ten Rings sur son t-shirt pour dire je fais partie des Ten Rings, mais c'est genre, il avait reçu 4 euros de financement en tant qu'organisme terroriste. Je ne sais pas si c'était genre les Ten Rings, mais oui. Mais il faudrait qu'ils
en... Il faudrait l'expliciter un petit peu, quoi, qu'on
c'est
qu'on
ça.
Sache.
Et puis, il faut qu'ils fassent référence à... Comment il s'appelle Trevor Slattery, c'est ça ? I'm an actor ! Du 3, il faut, parce que, oui. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un petit one-shot, un court-métrage qui a été publié après Iron Man 3, parce que les fans étaient très, très, très énervés de ce qu'ils avaient fait au mandarin, au personnage du mandarin. Et on voit donc dans ce petit short une salle de prison d'interrogation et... Le Trevor Slattery qui jouait le mandarin pour Aldrich, et dans la salle d'interrogation, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit « Ah, le maître n'est pas très content de ce que vous avez fait. » Genre, sous-entendu, le vrai mandarin existe et il n'est pas content de ce qui s'est passé et donc il sait que vous êtes de ce que vous avez fait, etc. Donc, on va sans doute voir le mandarin, j'imagine, dans Shang-Chi, ou au moins y faire référence. Et donc, il faut pas que ça soit forcément genre une référence on n'aime vraiment pas Trevor Slattery, mais au moins je sais pas un article de journal ou une photo quelque part ou un truc qui dise, qui fasse un clin d'œil genre oui on sait quoi au minimum. Mais
ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup moi alors j'avais pas vu ce court-métrage avant très récemment, avant qu'on parle de Shang-Chi sur internet, et que du coup je me renseigne et puis que je regarde des vidéos YouTube, etc. Et à l'époque d'Iron Man 3, du coup j'étais pas encore versé dans les comics, et je regardais le MCU, voilà, j'aimais bien, donc j'allais les voir, mais c'était sans plus. Et du coup, pour moi, j'en étais resté à le mandarin, c'est un faux, enfin tu vois, c'est il y a pas de vraie organisation terroriste, et tu vois, j'en étais vraiment resté là, quoi. Donc j'avais compris que les fans étaient un petit peu outrés. Moi je trouvais ça du coup génial d'avoir joué avec cette attente et d'avoir d'avoir fait ce twist. J'ai vraiment beaucoup aimé ce twist là.
Ouais. Moi j'ai adoré aussi.
Et du coup, bah, j'en étais vraiment resté là. Et du coup, effectivement, si j'arrive à Shang-Chi et qu'on me reparle d'un mandarin, je pense que ça...
Ah oui, donc ils doivent expliquer, t'as raison. Il faut expliquer. Ouais, tout à fait. Non, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, parce que moi, j'ai tellement tout suivi que je me souviens de tout. Mais ouais, il faut... Du coup, t'as raison, il faut expliquer. Bon, bah écoute, on verra ce que ça donne. On aura la réponse dans quelques jours. Hein. Autre chose que tu veux dire sur Shang-Chi, où on a fait le tour ?
Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On verra.
Très bien.
C'est très bientôt, dans quelques jours.
Ouais, et on espère avoir d'ici une petite dizaine de jours un épisode spécial avec et sans spoiler pour vous en parler. On verra si je réussis à m'extraire de mon environnement familial pendant quelques heures pour aller au cinéma et aller le voir. Ça serait plus simple s'il était sur Disney+, hein, je dis ça comme ça. Bon, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Johan, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
On peut me retrouver sur Twitter à @johant_.
Merci beaucoup, et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous aimez les podcasts, vous aimerez peut-être le rendez-vous jeu, où on parle d'actu jeux vidéo, ou le rendez-vous tech, où on parle d'actu tech. Et tout ça est accessible directement sur notepatrick.com, avec plein de liens vers toutes vos apps de podcast pour commencer à écouter tout de suite. On vous remercie de nous avoir suivis, et on se donne rendez-vous donc très bientôt pour la suite. Grosse bise à tous et toutes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.